Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. Diffusé tous les jours de 10h à 11h du lundi au vendredi, Les Nouveaux Chemins sont réalisés cette semaine par Midia Portis-Guérin avec Jehan-Richard Dufour à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie, Marine Boistet, Claire Delnat et Adèle Van Rett. Adèle qui recevra Frédéric Morlot tout à l'heure à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins pour vous parler d'Einstein, ou plutôt de la version qu'en offrent nos amis des Petits Platons. Suite et milieu pour nous ce mercredi d'une semaine sur le bac philo dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine dont l'écoute peut être avantageusement doublée de la lecture du hors-série que Philosophy Magazine vous propose sur le bac philo comme chaque année, un hors-série à paraître le 21 avril. Après Alexandre Larguier et Olivier Chapignac, qui enseignent respectivement au lycée Charles Renouvier de Prades et au lycée Saint-Avol dans Lorraine, avant de recevoir Anne-Sophie Rémy et Élodie Cassan, c'est aujourd'hui David Le Breton, professeur en terminale au lycée de Chinon, qui est l'invité des Nouveaux Chemins et qui se demande si vivre l'instant présent constitue une règle de vie satisfaisante. Vivre l'instant présent, est-ce une règle de vie satisfaisante? C'est la question du jour dans cette semaine sur le bac philo, cette semaine que vous propose les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Bonjour David Le Breton.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes dans la situation d'un élève qui passe le bac, une fois n'est pas coutume. Hein. Il faut toujours s'infliger à soi-même les épreuves qu'on fait subir. C'est la règle ici. Vivre l'instant présent, est-ce une règle de vie satisfaisante? Si vous étiez candidat avec un tel sujet sous les yeux, comment est-ce que vous réagiriez? Quel serait votre premier réflexe?
Je crois que les élèves gagnent toujours à commencer par des questions assez systématiques pour passer l'angoisse de la page blanche et donc avoir quelques repères qui reviennent comme ça, comme des automatismes. Moi, je commencerai tout simplement par remarquer que c'est une question fermée, une question qui nous place tout de suite dans l'alternative oui-non et qui ne nous demande pas de ce fait, comme une question ouverte, d'inventer une réponse comme si c'était un pourquoi ou un comment.
Alors, et c'est une question fermée qui, en plus, présume la négative, au fond, puisque sinon la question ne se poserait pas.
Qui laisse cette possibilité ouverte et qui dit au candidat, il faut choisir entre le oui et le non, et tenir compte du fait que le non n'est pas si idiot que ça, qu'il faut aller peut-être parfois lutter contre le côté un peu sympathique de l'idée qu'il faudrait vivre l'instant présent, et essayer d'aller voir de l'autre côté aussi.
Et comment construire une problématique à partir d'une question comme celle-là, c'est-à-dire une question fermée qui ouvre sur une alternative, un oui ou un non?
Alors déjà, je crois que le premier piège à éviter, c'est de pas tomber dans le plan qu'on rencontre trop souvent, malheureusement, oui-non, qui se termine dans une catastrophique conclusion de type « ça dépend un peu oui,
ou
un peu non ».
Dans un improbable « peut-être » qui servirait de troisième partie, oui, on est d'accord.
Et c'est d'autant plus risqué que souvent les élèves partent avec l'idée que dans une dissertation, il faut peser le pour et le contre. Et c'est vrai, mais il faut vraiment les peser. Et il faut être capable de dire à la fin celui qui pèse le plus lourd. Lequel des deux a le plus de poids et c'est celui qui devra triompher dans la conclusion.
À cet égard, j'en profite pour rappeler peut-être que la dissertation au bac n'exclut pas la possibilité de répondre à la question qu'on pose. On a beau faire de la philo, on a le droit de répondre.
Ah, ça permet aussi au candidat de se mettre directement en tête que dans sa conclusion, il y a un moment où il va falloir se prononcer sur ce oui ou ce non, éventuellement inventer une troisième voie entre le oui et le non, mais très clairement indiquer où il se situe par rapport à ça.
En tout état de cause, il n'est pas évalué sur la nature de sa réponse, mais sur le chemin qui l'y conduit.
Effectivement, ça reste l'essentiel, la démarche, l'argumentation qu'il met au service de cette réponse, qui, à elle seule, ne vaut finalement pas plus qu'une vague opinion.
Alors allons-y, hein. Comment faites-vous? Comment votre opinion prend-elle un tour argumentatif, David Le Breton? Comment est-ce que vous lui donnez cette forme-là? Et comment est-ce qu'on entame une dissertation sur un tel sujet avec cette question dont on a vu la difficulté tout de suite, hein, qui était cette alternative justement qu'elle nous propose?
Oui, alors face à cette question, on peut déjà remarquer qu'on est sur une formulation assez classique de type « ceci est-ce cela ?»« Vivre l'instant présent, est-ce une règle de vie satisfaisante ?» qui est une formulation qu'on retrouve dans beaucoup de sujets. Être juste, est-ce renoncer à l'usage de la force? Des choses de ce genre.
Et en fait, être tolérant, est-ce être sceptique, par exemple?
Voilà.
Ou être sceptique, est-ce être tolérant?
Qui sont toujours des questions qui, en fait, nous posent de manière détournée la question « qu'est-ce que ?» Ici, « qu'est-ce qu'une règle de vie satisfaisante ? Avec un petit coup de pouce, parce qu'au lieu de nous poser la question à brûle-pourpoint, comme ça, sous forme de question ouverte, on nous suggère une piste. Tiens, est-ce que une règle de vie satisfaisante, ce ne serait pas de vivre l'instant présent. Et on doit donc évaluer cette proposition qui nous est faite par le sujet.
Juste une petite parenthèse encore sur l'intitulé du sujet, David Le Breton. C'est un sujet qui ne renvoie pas objectivement, me semble-t-il, si l'on accepte le bonheur, mais dont le mot n'est pas prononcé dans l'intitulé du sujet, qui ne renvoie pas explicitement à une notion du programme, qui donc à cet égard peut-être peut déstabiliser un candidat qui, croyant bien faire, voudrait mobiliser ses connaissances face à un sujet dont le thème lui serait familier.
Oui, de ce point de vue-là, c'est un sujet qui tend à devenir rare parce que la plupart font maintenant très directement mention d'une des notions du baccalauréat. On peut le raccrocher au bonheur, on peut aussi le raccrocher à cette double notion, l'existence et le temps, des terminales littéraires, alors que le bonheur vaut pour toutes les séries générales.
Alors, on est donc là face... on a bien vu que l'œil d'aigle du candidat repérait que la vraie question, c'était la question de savoir ce qu'était une règle de vie satisfaisante, plus que la question de savoir ce qu'était vivre l'instant présent.
Oui, et d'ailleurs, le sujet est de ce point de vue-là assez sélectif, parce que le risque, c'est d'oublier une des moitiés de ce sujet, de se concentrer sur vivre l'instant présent, qui attire tout de suite le regard de la plupart des candidats, alors qu'il y a une vraie interrogation à mener sur ce qu'est une règle de vie, et qui plus est, satisfaisante.
Alors, comment on construit donc une problématique à partir de ça ? Quelle est la question qui gouverne tout le travail de la dissertation, le fil rouge au fond, la question qu'on doit garder en tête et à laquelle il faudra bien répondre ?
Moi, il me semble qu'une problématique, ça se construit en s'appuyant sur l'analyse que l'on fait du sujet, des termes du sujet, et en repérant les remarques que cette analyse met en avant, celles qui paraissent les plus importantes, et en se disant « je vais reformuler mon sujet de façon à y incorporer les informations les plus importantes qui sont issues de cette analyse du sujet ». Et là, je crois qu'il y a trois choses qui doivent être soulignées quand on se penche sur ce sujet. D'abord, c'est qu'en se posant cette question, on cherche à obtenir une vie qui serait elle-même satisfaisante, qui serait une belle vie, une vie heureuse, une vie réussie, mais sans que ce soit le fruit du hasard. Et ça, il va falloir que ça apparaisse d'une façon ou d'une autre dans notre problématique. On compte pour ce faire sur une concentration sur le présent, qui nous épargnerait les douleurs du passé, les soucis de l'avenir, et qui pourrait nous rendre la vie plus plaisante, plus heureuse. Et puis troisième chose qu'il faudra mentionner dans cette problématique, c'est qu'on soupçonne malgré tout, quand on s'interroge sur une règle de vie satisfaisante, que, en dehors du bonheur dont on a commencé à parler, il y a peut-être des choses, d'autres choses à faire de sa vie. Peut-être qu'une vie satisfaisante, ça n'est pas une vie tout simplement heureuse, et il faut laisser cette possibilité-là dans le sujet, et que ça apparaisse dans la problématique.
Alors, s'il fallait résumer tout cela en une phrase, vous feriez comment ?
On pourrait, il n'y a pas qu'une seule bonne formulation, mais ça pourrait donner quelque chose du type « Le meilleur moyen d'être comblé par la vie est-il de profiter intensément de l'instant présent ? Ou bien, ne vaut-il pas mieux tâcher d'être honnête et vertueux ?»
Ah, carrément. L'alternative serait d'emblée posée dans l'introduction en ces termes.
Face à certains candidats qui ont parfois tendance à multiplier les questions et donc à brouiller les pistes au moment où il faut indiquer une problématique claire et nette, je pense que la formule à travers le « ou bien » permet de se donner un peu d'air pour cette problématique, de la préciser un peu, sans donner une autre direction non plus, sans partir dans une deuxième problématique qui risquerait de semer la confusion dans l'esprit du correcteur.
Et de compliquer les choses. Mais alors, est-ce qu'à cet instant, du coup, l'annonce d'un plan est nécessaire, ou est-ce qu'une problématique présentée comme une alternative suffit en introduction ? Est-ce qu'au fond, une introduction, bon lapsus, qui s'achève sur cette alternative problématique, le meilleur moyen d'avoir une règle de vie satisfaisante, est-ce de profiter de l'instant présent ou bien d'être vertueux et honnête ? Est-ce que la formulation de la problématique de cette manière ne fait pas office, finalement, d'annonce de plan également ?
Elle n'en tient pas tout à fait lieu, et je crois que malgré tout, même si c'est jamais absolument requis, j'aurais tendance moi à inciter les élèves à annoncer malgré tout leur plan, parce qu'on ne sait jamais quelles perturbations peuvent survenir pendant l'épreuve et les empêcher de correctement faire ce qu'ils avaient songé à faire. Et ainsi, ils donnent à leurs lecteurs des points de repère qui peuvent être véritablement utiles pour la suite.
Alors allons-y, allons vers la première partie du coup. Comment est-ce que vous l'intituleriez ? Et est-ce que vous suggérez aux élèves, je pose la question toujours à tous nos candidats professeurs, Est-ce que vous suggérez aux élèves de nommer cette première partie? Non pas évidemment de mettre en exergue le titre de la première partie, ça n'est pas le lieu ici, mais que la première phrase de la première partie soit au fond la ligne directrice de cette partie. Est-ce que pour un élève c'est mieux de le faire? Est-ce qu'il ne court pas le risque de se répéter, de lasser son correcteur? Qu'est-ce que vous conseillez?
Je pense là aussi que ça n'est pas mauvais de l'indiquer assez clairement.
Quitte à être redondant, c'est moins grave que d'être elliptique.
Oui, je crois que vraiment, quand nos élèves ont à faire le choix entre l'élégance et la clarté, c'est la clarté qui toujours doit dominer. L'élégance, elle viendra de surcroît quand la pratique leur aura donné l'expérience et leur permettra de rajouter cette cerise sur le gâteau.
Ou quand ils se seront débarrassés du fardeau de la disserte, ça c'est une autre histoire.
Autre possibilité.
Donc quel titre vous donneriez à la première partie, David Le Breton?
Alors moi je dirais en première partie que vivre l'instant présent est en apparence une bonne manière d'atteindre le bonheur. Et comme je conseille assez régulièrement à mes élèves de le faire, comme c'est loin d'être notre dernier mot, c'est que le premier pas de la dissertation, on place ce petit « en apparence » qui est là pour alerter et pour dire « attention, il y a une réserve qui a été mise ». Ça évite aussi de donner l'impression au correcteur que l'on va se contredire de façon flagrante.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans l'intitulé qui consiste à dire que vivre l'instant présent, c'est-à-dire être ici et maintenant, hein, est une bonne manière d'atteindre le bonheur, le verbe « atteindre » désignant, mettant le bonheur au fond à distance? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement dire vivre l'instant présent, c'est vivre le bonheur? Pour être encore plus précis, je ne sais pas. Hein.
Oui, effectivement, dans la mesure où c'est justement ce à quoi on va arriver au terme de ce grand 1, le bonheur qu'on veut atteindre, c'est généralement le bonheur qu'on manque, le bonheur qui n'est pas au présent, mais qui reste à l'état de projet, de vague rêve. Donc on pourrait dire effectivement que c'est plutôt une bonne manière d'obtenir, là, de le générer ici et tout de suite, ce bonheur.
Et est-ce qu'un correcteur ne peut pas vous reprocher de confondre la règle de vie satisfaisante avec le bonheur? Parce qu'après tout, bien des gens, qui peut-être ont tort d'ailleurs, ne tiennent pas le bonheur pour une règle de vie satisfaisante, mais considèrent que c'est une façon délétère de conduire son existence que de rechercher le bonheur à tout prix et qu'au fond ça rendrait malheureux.
Alors c'est là justement qu'il y aurait un avantage à annoncer le plan, c'est que ce plan annoncé permettrait de montrer d'entrée de jeu au correcteur que, au-delà de ce grand 1, où on teste l'hypothèse que la règle de vie satisfaisante est celle qui permet d'acquérir le bonheur, il y a une suite qui, elle, va prendre ses distances à l'égard de cette hypothèse et qui ne va pas rester dupe de cette confusion entre avoir une vie satisfaisante et avoir une vie heureuse.
Donc, nous en sommes là. Par quoi commenceriez-vous la première partie? Est-ce par un exemple? Est-ce par une citation? Par la référence à un philosophe? Est-ce par un cas concret? Toutes ces options sont possibles, hein, on le rappelle toujours.
Hein. Oui, effectivement, il n'y a aucun passage obligé. Là, j'ai choisi de commencer par une définition de façon à se mettre d'emblée d'accord avec celui qui nous lit sur ce dont on parle, et en l'occurrence, une définition du bonheur que le grand 1, par la suite, va retravailler, va essayer d'approfondir et de comprendre quelles sont les conditions qui y mènent, notamment qu'a à nous apporter le fait de vivre l'instant présent par rapport à ce bonheur.
Quelle est cette définition, donc?
Alors, une petite définition de travail consisterait à se dire, par exemple, que le bonheur est l'état durable de celui qui est comblé, de telle sorte qu'il ne voudrait rien ajouter ni retrancher à sa situation actuelle. Être heureux, quelle que soit la manière dont on essaye de produire cet état, ça doit manifestement ressembler à ça, se sentir dans un état tel que rien n'est de trop et rien ne manque.
Une telle définition, enfin on voit assez vite d'ailleurs à quel genre d'illusion une telle définition expose. Hein. Quand on est comblé, quand on a bien mangé, on n'imagine même pas qu'on puisse avoir faim quelques heures plus tard au fond, et que la douleur succède à ce comblement ou à cette satisfaction, non?
Oui, et de ce point de vue-là, on peut penser par exemple à ces pratiques qui consistent à définir le bonheur comme une liste des choses que l'on voudrait avoir et par lesquelles enfin on arriverait à un moment à être heureux. Un peu comme ces joueurs de loto qui commencent déjà à établir la liste de tout ce qu'ils s'achèteront pour être enfin heureux avec leur gain du loto. Et qui du coup se condamnent à être malheureux parce qu'ils ne peuvent que constater que tout ça, en l'état actuel des choses, ça leur manque.
Mais est-ce là vivre l'instant présent, en l'occurrence? Si vous définissez le bonheur comme l'état durable de celui qui est comblé, qui ne veut rien ajouter, rien, rien retranché. Au fond, vous êtes là. Est-ce qu'on est en présence d'une illusion qui consiste à croire qu'une fois qu'on est satisfait, eh bien, on l'est durablement, alors qu'il n'en est rien, évidemment. Quand on n'a plus faim, on croit qu'on n'aura plus jamais faim, mais ça ne dure pas. Donc, est-ce une illusion ou est-ce au contraire, de façon plus forte, le souverain bien, tel que Spinoza peut le penser, par exemple, comme ce dont l'obtention n'épuise pas le désir, ce qu'on est capable de désirer quoi qu'on le possède déjà.
Je pense que, en fait, le principal avantage de cette définition du bonheur, c'est que elle permet déjà, dans un premier temps, d'éviter d'importantes sources du malheur. Et que ça n'est peut-être pas de façon positive la clé assurée d'un bonheur qu'on ne perdra plus jamais, mais c'est au moins une bonne indication pour savoir identifier et en même temps éviter ce qui, en temps normal, contribue assez largement à nous rendre malheureux.
Mais alors pourtant, quels problèmes sont posés du coup par cette définition du bonheur ?
Elle met en évidence le fait que, en temps normal, au-delà de notre situation présente, nous convoquons auprès de nous tous les fantômes du passé, tous les espoirs du futur, et que ce sont eux qui nous privent de la sérénité qui serait la plus à même de générer ce bonheur. Et que finalement, une des clés du bonheur, c'est manifestement de ne pas rester rongé par tout ce qui provient du passé, les regrets, la nostalgie, ou de ne pas être dans la vaine attente de ce que pourrait, de façon très hypothétique et donc problématique, de ce que pourrait nous apporter le futur.
Donc une confusion ici du bonheur et de la possession, au fond. Une possession qui étant toujours déçue, ajourne toujours le moment d'être heureux.
Effectivement, se dire que le bonheur, ce n'est pas ce qu'on va obtenir, ce que l'on rêve de posséder, mais que le bonheur se loge peut-être dans ce que l'on possède déjà et dont on doit apprendre à jouir.
Alors, une fois que nous sommes à ce point-là de la dissertation, on est donc au milieu de la première partie, David Le Breton, à peu près ?
Alors, peut-être plutôt au premier tiers de la première partie, avec cette définition que l'on commente, que l'on travaille, et c'est le moment où peut-être on serait avisé de faire intervenir une référence philosophique qui prend le relais de cette définition du bonheur, et qui est aussi, de façon là, très pragmatique, une façon d'indiquer à son correcteur qu'on a quand même derrière soi une année de philosophie, et qu'on a de ce fait une culture philosophique, même embryonnaire.
Alors,
en l'occurrence, ça pourrait être la référence à un texte assez célèbre de Blaise Pascal dans Les Pensées, qui est le fragment 172 dans l'édition Brunswick et le fragment 168 en Pléiade. Un fragment très célèbre qui commence par « Nous ne nous tenons jamais au temps présent, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt. » Avec cette terrible conclusion de l'extrait que donne Pascal, à savoir que « ainsi, nous ne vivons jamais,
heureux, ouais.
Mais nous espérons de vivre ». Et voilà le bonheur qui s'enfuit sous nos yeux lamentés.
Et le bonheur s'enfuit donc par la nature du désir que nous en avons. C'est-à-dire, c'est la nature de notre désir qui, au fond, repose sur le manque et qui fait du bonheur quelque chose de négatif, qui rend le bonheur fugace, insaisissable. Le bonheur n'est pas saisissable, ou en tout cas, la règle de vie n'est pas satisfaisante dans la mesure où notre désir est ainsi fait qu'il ne peut pas se satisfaire de ce qu'on lui propose.
Effectivement, on peut dans un premier temps incriminer le désir, ici compris comme la tentative pour combler un manque, et tant que le manque est présent, on ne s'imagine pas satisfait, on ne s'imagine donc pas heureux. Mais ça va même plus loin, puisqu'à la rigueur, on pourrait tirer le texte de Blaise Pascal dans un sens encore plus paradoxal. C'est non seulement le désir qui est incriminé, mais même plus précisément, parfois, le désir d'être heureux. C'est à rechercher le bonheur qu'on est capable... De façon très étonnante, de passer à côté.
C'est les amoureux de Brassens qui se bécotent sur des bancs publics et qui ont des petites gueules bien sympathiques, etc., etc., et qui évoquent émus. Je le cite de mémoire, mais à la fin de la chanson, Brassens dit il se voit déjà elle cousant lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé, et seulement ils s'apercevront émus que c'est au hasard des rues, sur un de ces fameux bancs, qu'ils ont vécu le meilleur morceau de leur amour.
Oui, quand on construit un bonheur futur, on oublie tout simplement de vivre le bonheur présent et de profiter de la douceur qu'il y a à être là sur ce banc public avec celle qu'on aime sans forcément attendre le moment où enfin on pourra passer à l'étape suivante de la vie installée, elle cousant, lui fumant.
Mais quelle objection peut-on faire à un tel discours, à une telle sagesse, David Le Breton ? Parce qu'au fond, la difficulté de cette dissertation, c'est qu'elle commence par une option extraordinairement sage, en un sens, hein, qui consiste à dire « ayez la sagesse de remplacer la recherche d'être heureux » par le fait de l'être, tout simplement. Remplacer l'amour de la sagesse par la sagesse de l'amour, ou le désir d'être heureux par le bonheur de désirer. En quoi est-ce la problématique ? Quelle est l'insuffisance d'une telle position qui justifie que vous infléchissiez votre propos ensuite ?
Oui, parce qu'en effet, et c'est là aussi un défaut qu'on rencontre malheureusement trop fréquemment chez les candidats, on ne peut pas quitter le grand 1 tant qu'on n'en a pas trouvé la faille. Sinon, autant y rester. Si rien ne pose problème dans ce grand 1, on s'arrête au terme du grand 1. Il ne faut pas basculer comme ça, de façon abrupte, du grand 1 au grand 2. Il faut montrer qu'on a des raisons d'évoluer, qu'il y a mieux à trouver dans la suite de la dissertation. Là, en l'occurrence, je crois que cette première idée, qui allait tout à fait dans le sens de vivre l'instant présent, elle pose un premier sérieux problème, c'est que dans l'insouciance que l'on se propose, quand on se propose de vivre l'instant présent, il y a quelque chose de presque coupable, calamiteux, un peu quelque chose de l'ordre d'une frivolité dont il faut vraiment se méfier.
Alors, est-ce qu'il faut s'en méfier parce qu'une certaine morale nous indiquerait qu'il est mal de le faire, ou est-ce qu'il faut s'en méfier parce que justement les conséquences de l'insouciance, comme l'hiver ou la bise pour la cigale impécunieuse, sont à redouter. Qu'est-ce qui nous invite à nous en méfier ? Est-ce une condamnation morale ou est-ce un conséquentialisme qui fait le calcul des effets de notre insouciance et des méfaits de notre insouciance, David Le Breton ?
Là, je pense que c'est effectivement plutôt le piège posé, enfin les limites montrées par les conséquences de cette attitude. À trop vivre l'instant présent, eh bien, on perd de vue un futur qu'il convient parfois quand même de préparer un tant soit peu, parce que ce futur, même s'il est loin d'être sûr, même si on peut toujours affirmer que on ne sait pas de quoi demain sera fait, il arrive quand même que demain soit là et qu'il faille le vivre. Et il ne faudrait pas avoir vécu l'instant présent et s'être privé de tous les moyens de vivre l'instant à venir.
Est-ce à dire que l'autre nom de vivre l'instant présent, tel que vous l'entendez dans cette première partie, David Le Breton, c'est « Après moi le déluge » ?
Ben un petit peu, et c'est ce que met en évidence, effectivement, pour aller piocher dans les souvenirs d'enfance des auditeurs, et des bacheliers notamment, c'est ce que met en évidence la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. On voit là la situation de cette cigale qui a vécu l'instant présent, qui a chanté tout l'été, et qui tout à coup est confrontée à un nouveau présent qui est nettement moins rose que le précédent. Et donc si on voulait suivre la métaphore agricole que l'on trouve dans le fameux Carpe Diem d'Horace, cueillir le jour, vivre l'instant présent et cueillir le jour, on pourrait dire que la récolte d'aujourd'hui pourrait avoir le tort de nous priver des récoltes à venir.
Par-delà la cigale et la fourmi, au fond, est-ce que... tout dépend de l'avenir qu'on envisage ou de la façon dont on envisage l'avenir. Est-ce qu'au fond, vivre l'instant présent, est-ce qu'un partisan de l'instant présent ne pourrait pas vous répondre que l'avenir ne nous promettant que la décrépitude et puis la mort, vivre l'instant présent est une façon de jouir pleinement et loyalement de son être à l'instant où nous nous trouvons, sans polluer son bonheur, polluer son bonheur d'exister par la représentation du moment où ce bonheur s'achève.
Alors effectivement, on pourrait toujours être un forcené du carpe diem et vouloir s'en tenir toujours à l'instant présent. C'est oublier que le présent, il se suit et qu'on va en permanence vers de nouveaux instants présents, que donc on doit d'une certaine manière en tenir compte.
Est-ce que vous allez... La critique de l'instant présent ou de l'hédonisme implicite que vous manifestez dans cette première partie, est-ce que vous la faites dans la première partie ou dans la seconde ?
Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est, pour marquer cette inflexion, utiliser par exemple, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, utiliser une référence à l'intérieur de laquelle on trouve à la fois quelque chose qui est de l'ordre de « je vis l'instant présent », mais qui contient aussi en germe sa critique. Et je crois que de ce point de vue-là, il y aurait un texte qui est assez utile et assez fort. C'est le texte de Rousseau dans « Les rêveries du promeneur solitaire ». où Rousseau raconte que lui-même a fait cette expérience du simple plaisir de se sentir exister lorsqu'il était en exil au fond de sa barque et qu'il passait des journées comme ça à se couper du tumulte de la vie mondaine qu'il avait pu connaître, de tous les soucis qu'il avait rencontrés. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre du carpe diem dans le début de cette cinquième rêverie du promeneur solitaire. Mais à la fin, Rousseau annonce quand même qu'il y a une difficulté, c'est que lui-même le reconnaît, à vivre l'instant présent, on se met en marge de toutes les obligations d'une vie active, une vie qui continue malgré nous et dans le train de laquelle on est embarqué. Et
alors, vous avez cité Rousseau, on pourrait donner un autre exemple, c'est Montaigne qui, dans le dernier chapitre des Essais, dit « Quand je danse, je danse ». Quand je dors, et même quand je me promène solitairement dans un beau verger, si mes pensées se sont occupées de choses étrangères pendant quelques parties du temps, une autre partie du temps, je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Comme Rousseau s'inspire de Montaigne dans les rêveries du promeneur solitaire, on peut ici citer Montaigne, mais que ce soit Montaigne ou Rousseau, dans les deux cas, l'expérience de l'instant présent se fait par une façon de se mettre en retrait du monde et donc de déclarer, non pas caduque, mais indifférente, un certain nombre de choses.
Oui, et ce retrait à l'égard du monde, il est très problématique. Rousseau lui-même dit qu'il peut se le permettre, qu'il est arrivé au soir de sa vie et que finalement les obligations de la vie ne le concernent plus trop. Mais nous sommes loin d'être tous dans la situation de Rousseau. Et ça commence à faire émerger une critique possible du carpe diem sur laquelle on rebondit pour, en cette fin de première partie, initier la deuxième partie.
Captain, my captain.
Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? You hear me?
Oh, Captain, my captain.
Mr. Overstreet, I warn you. Sit down.
Oh, Captain, my Captain, ça c'est la fin du cercle des poètes disparus. C'est une fin absolument magnifique, poignante, où les élèves, pour rendre hommage à leur professeur qui leur enseignait Horace, justement, Seize the Day, disait constamment leur professeur, pour leur rendre hommage, se mettent tous debout sur la table, devant leur nouveau professeur, puisque le précédent s'est fait virer, montent tous sur la table en récitant du Walt Whitman, en lui disant Oh, Captain, my Captain, et je dois dire que c'est un moment absolument magnifique. Voilà donc un hommage comme on aimerait que tous les élèves en rendent à leur professeur d'une certaine manière, comme quoi l'indiscipline peut être aussi une façon d'être fidèle à l'enseignement qu'on a reçu. David Le Breton, vous qui êtes enseignant au lycée François Rabelais de Chinon, vous nous expliquez dans quelle mesure vivre l'instant présent est ou n'est pas une règle de vie satisfaisante. On est ici au terme de la première partie qui identifie donc le fait de vivre l'instant présent à un bonheur, mais qui en même temps en propose la critique au titre de l'insouciance qu'elle porte en elle et du fait que pour vivre l'instant présent, il faut s'abstraire du monde. Comment est-ce que vous enchaînez la première et la deuxième partie en montrant évidemment qu'il ne s'agit pas de faire thèse-antithèse, mais thèse est d'une certaine manière contre-thèse ou prolonger en tout cas la thèse jusqu'à un point d'infléchissement qui justifie une autre partie.
Alors une fois qu'on a commencé à prendre ce virage avec Rousseau ou avec Montaigne, on peut faire intervenir les réflexions qu'on a évoquées juste avant sur la fontaine, la cigale et la fourmi. Le but, ce serait vraiment non pas de prendre brusquement et de façon un peu absurde le contre-pied de ce qu'on a dit avant, mais de montrer que certes, il est souhaitable d'éviter toutes les difficultés liées au passé et à l'avenir qui viennent nous empoisonner l'existence, qui nous empêchent parfois d'être heureux, mais que le passé et l'avenir, ça n'est pas nécessairement que ce genre de difficultés, qu'il faut faire une place, notamment à l'avenir, qu'on va connaître, qu'on va vivre, et qu'à certains égards, il serait bon de préparer aussi. Et donc c'est en incluant, en complétant, au lieu de prendre le contre-pied, on va compléter ce qu'on a dit dans la première partie et montrer que ce qui a été dit dans la première partie n'est pas faux, mais c'est incomplet, et il faut rajouter ces éléments qui, eux, sont moins favorables au carpe diem.
Et comment, en introduisant l'ajournement de l'instant présent au profit de l'avenir, en réintroduisant le temps, finalement, hein, dans cette dimension de vivre l'instant présent, en réintroduisant une temporalité, un calcul, une perspective, une promesse, un espoir, un projet, que sais-je, en tout cas un rapport au futur. En réintroduisant ça, comment échappez-vous à la critique pascalienne que vous avez formulée au début, à savoir, Pascal ici en porte-parole paradoxale de l'hédonisme d'ailleurs, puisque c'est un janséniste, mais enfin pourquoi pas, Pascal disant « espérant de vivre ou espérant d'être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais ». Comment échappez-vous à cette critique pascalienne qui faisait le fer de lance de la première partie dans la deuxième partie, si vous réintroduisez de l'avenir dans le présent?
Bah, en fait, il faudrait tout simplement essayer de comprendre que le présent ne se joue pas nécessairement contre l'avenir et que vivre le présent, ça n'est pas à chaque fois épuiser tout avenir envisageable, mais qu'il y a peut-être des façons d'habiter son présent qui laissent une place aussi à l'arrivée d'autres choses, à la survenue d'un avenir et n'en bloque pas complètement le fait de le vivre et le fait d'en profiter, que
par
finalement
exemple,
on peut à la fois vivre l'instant présent et préparer cet avenir. J'imagine par exemple qu'un couple amoureux qui à la fois vit pleinement son amour mais qui en même temps songe à l'avenir sous la forme d'un engagement plus fort, d'un bébé à venir, ne se prive pas complètement, bien au contraire, peut-être qu'il l'intensifie dans le fait de penser à cet avenir, ne se prive pas du bonheur de l'instant présent.
On retrouve ici Brassens d'ailleurs.
Et on aurait la perspective de nos amants des bancs publics qui, tout au confort de leurs embrassades sur les bancs publics, ont en même temps la joie supplémentaire de savoir qu'ils ont semé dans le présent des graines qui contribueront à leur préparer un bel avenir.
Au fond, ce que vous dites, c'est que la représentation de l'avenir peut être un des éléments d'un présent bien vécu, plus qu'un obstacle à un bonheur immédiat. Mais alors dans ces conditions, ça veut dire que l'avenir viendrait grossir le présent, plus que le distendre, David Le Breton.
Oui, parce que finalement, ce qu'on repère dans...
On reste sur les amoureux des bancs publics, hein, ils se voient dans l'avenir. Et se voir dans l'avenir donne encore plus de piment ou de sel à leurs embrassades.
Oui, et puis c'est un avenir qui, pour eux, est un avenir conforme à leurs souhaits, un avenir qu'ils construisent. Alors que dans notre première partie, les critiques qu'on pouvait adresser à l'avenir, c'est que d'abord et avant tout, on pouvait avoir le sentiment de le subir et de voir cet avenir comme une menace, comme quelque chose qui nous prépare on ne sait quoi, mais souvent quelque chose d'assez terrible. Alors que si dans le présent, on garde de quoi préparer cet avenir, ne pas le laisser complètement nous surprendre et nous décevoir, mais qu'on œuvre à un avenir meilleur, alors on s'évite ce genre de déconvenue.
Alors dans ces conditions, puisque nous sommes dans la deuxième partie et que vous incorporez de cette façon l'avenir, que vous réserve l'avenir de votre disserte, que vous reste-t-il dans ces conditions à mettre en avant pour justifier là encore d'ailleurs le changement de partie?
Eh bien, je crois que pour compléter ce qu'on vient de dire, de façon plus critique à l'égard du carpe diem et du fait de vivre l'instant présent, on pourrait revenir davantage sur l'autre moitié de notre sujet qu'on ne doit pas occulter, à savoir la question de la règle de vie satisfaisante. Et on pourrait, de ce point de vue-là, montrer que, quel que soit la thèse que l'on défend quant à la valeur de ce vivre l'instant présent, on peut sérieusement douter que quelques règles de vie que ce soit puissent nous conduire au bonheur. Et ce serait une deuxième partie, un grand B complémentaire dans cette deuxième partie.
Est-ce que dans ces conditions, j'en reviens toujours à cette définition du bonheur, le mot de bonheur n'est pas présent dans l'intitulé du sujet? Est-ce que à trop parler de bonheur, vous ne courez pas le risque, aux yeux d'un correcteur un peu scrupuleux ou un peu tatillon, de vous reprocher éventuellement un hors-sujet, David Le Breton?
Si effectivement à aucun moment on intervenait dans la dissertation pour dire qu'il y a peut-être autre chose que le bonheur, là il y aurait un sérieux problème, puisque on ne nous demande pas si dans la vie on doit principalement travailler à être heureux. Mais c'est justement là qu'on va se rattraper et se sauver du hors-sujet, en un sens, en disant, attention, il y a peut-être autre chose à attendre d'une règle de vie que d'être heureux. Et en commençant par mettre un coup d'arrêt à ce qu'on avait évoqué avant, et en disant, mais après tout, oui, s'il s'agit d'être heureux, il n'y a pas de règle de vie qui nous amène de façon sûre et certaine à ce résultat. Il n'y a pas de recette qui produirait le bonheur.
En d'autres termes, vivre l'instant présent n'est pas une règle de vie.
Soit on arrivera à l'idée que vivre l'instant présent n'est pas une règle de vie, et donc pas une règle de vie satisfaisante, soit on va arriver à l'idée que vivre l'instant présent, ça peut être une règle de vie tout à fait convenable, mais pour atteindre autre chose que le bonheur, et pour remplacer ce bonheur qui pour l'instant nous a tellement occupés par autre chose qui viendrait définir ce qu'est une vie satisfaisante, peut-être une vie honnête, peut-être une vie... Et là, il va falloir effectivement réfléchir plus sérieusement à ce point-là de la dissertation.
Au fond, ce que vous dites, c'est que la satisfaction elle-même n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire le bonheur entendu comme satisfaction ou plénitude ou pure satisfaction en un sens égoïste ne peut pas nous satisfaire ni durablement ni véritablement.
Ben, il manque peut-être effectivement à cette vie-là.
Qu'est-ce qui manque à la satisfaction, voilà. Est-ce qu'il ne manque pas le manque lui-même à la satisfaction ?
Il manque peut-être, et on peut penser là à des réflexions qu'on trouverait principalement chez Kant, il manque peut-être un fil à cette trame qui serait par exemple ce qui nous rendrait véritablement dignes. Et ce qui fait que la vie prendrait toute son épaisseur parce qu'on ne se serait pas contenté d'une vie dans laquelle on voudrait jouir et être heureux parce qu'on jouit, mais parce qu'on a aussi fait en sorte d'avoir une vie dont on puisse être fier et dont on puisse se dire « là, j'ai vraiment dignement vécu en être humain et pas seulement en animal jouisseur ».
La critique que Kant propose du bonheur, on peut la trouver par exemple dans les fondements de la métaphysique des mœurs, est-ce que vous la faites intervenir dans la deuxième partie, David Le Breton ?
Oui, parce que justement, c'est cette idée que nulle règle de vie ne peut se proposer de nous faire parvenir au bonheur, elle est vraiment exposée à cet endroit-là, et elle est de ce point de vue-là très précieuse pour le candidat qui, à un moment ou à un autre de l'année, l'aurait rencontré dans son cours.
Mais les arguments avancés par la critique de Kant, la critique qu'il propose du bonheur, tiennent au fait, pour le dire assez rapidement, hein, que le concept de bonheur est un concept indéterminé, au sens où il est différent selon chacun. Il ne s'adresse qu'à la partie empirique de soi. Vous et moi sommes différents, nous n'avons pas la même idée du bonheur, et que donc, à cet égard, le bonheur ne peut pas être un idéal digne de l'homme. Il est un idéal, ou c'est un idéal provisoire, ou l'idéal provisoire de l'individu ou du sujet empirique, mais ça ne peut être en aucun cas le lieu de trouver un sens à la vie, c'est-à-dire de regarder au-delà de soi.
Oui, parce que ce que souligne Kant, c'est qu'il y a une inadéquation entre les deux parties de notre sujet, finalement. Une règle de vie, c'est quelque chose de très encadré, quelque chose qui nous donne une sorte de procédure qui, une fois appliquée, doit produire le résultat sur lequel on compte. Une règle de vie, c'est oui, une méthode, une recette. Et une méthode, ça ne peut se mettre en place que pour parvenir à un résultat qui est très clairement défini. Or, le bonheur, c'est justement quelque chose qui n'est pas clairement défini. C'est une idée vague, quelque chose de confus. Au fond, dit Kant, nous ne savons pas de quoi nous parlons vraiment quand nous parlons du bonheur. Alors, comment irait-on prétendre mettre en place une règle de vie pour attraper cette espèce de fantôme, de chimère qui nous nargue tout le temps ?
Mais est-ce que le problème ne vient pas du fait que Kant donne un contenu au bonheur, au fond, et que si on se donne pour règle de vie de ne jamais se s'épargner dans la mesure du possible ou de ne pas tourner le dos à ce qui nous rendrait heureux, si on se donne une telle règle de vie, sans donner un contenu au bonheur en question, on a malgré tout une règle de vie adaptable à tous les individus en présence, une maxime universalisable qui garderait toute sa validité. Est-ce qu'au fond, dans quelle mesure une règle de vie n'est pas tout simplement compatible avec des désirs particuliers ? Avons-nous besoin d'avoir la même idée du bonheur, pour le dire autrement, pour en faire une règle de vie ? Est-ce qu'on ne peut pas se fabriquer une règle de vie avec des conceptions tout à fait différentes du bonheur, dans la mesure où la règle consisterait simplement à ne pas leur tourner le dos ?
Ça pourrait marcher si on arrivait à mettre en place une idée, j'allais dire saine, du bonheur. Mais justement, pour Kant, le bonheur a ceci de particulier que c'est une sorte de fourre-tout et que... quand on dit que chacun a sa propre idée du bonheur, en fait, ça ne veut pas dire que chacun a une et une seule idée du bonheur. C'est que chacun se fait du bonheur une sorte de montagne, ça aspire tout. Et c'est ce que montre d'ailleurs Kant dans son texte. Si on veut s'imaginer heureux, alors on va s'imaginer riche, et puis on va s'imaginer en pleine santé, et puis on va s'imaginer vivant longtemps. Et le problème, c'est que tout ça, on n'est même pas sûr que ça amène au bonheur. Ça crée d'autres soucis.
Ça n'est surtout pas dans l'instant qu'on vit longtemps.
Oui, en plus, là, on n'est plus du tout dans vivre l'instant présent. Et puis, au-delà de ça, y a peut-être dans toutes ces choses-là des contradictions. Est-ce qu'on peut vraiment réussir à concilier toutes ces choses que l'on se met en tête quand on se dit, pour être heureux, il faudrait que j'ai ceci et ceci et ceci et ceci. Il y a un moment où on arrive, de façon assez dramatique, à se dire, tout ça, ça ne peut pas aller ensemble et je ne peux pas rêver d'une existence qui sera heureuse parce que j'aurai réuni tous ces ingrédients-là. Il y en a certains qui sont incompatibles.
Et surtout, l'obtention de toute chose produirait l'ennui. C'est Schopenhauer qui dit « Si on imagine un monde où les alouettes tomberaient toutes rôties dans la bouche, les hommes s'entretueraient de la même manière. Il n'y a pas de... Aucun bonheur n'est un remède au malheur, au fond. Et l'obtention du bonheur n'est pas non plus une façon de s'épargner la souffrance d'exister, David Le Breton. C'est même parfois une manière de la ressusciter. »
Oui, parce que là, on en revient à la logique propre au désir, qui est de toujours se choisir un objet différent et de ne jamais s'en tenir à ce qu'il possède. Et donc, un homme qui aurait tout essaierait d'inventer un au-delà de ce tout et le désirerait très, très ardemment, de façon à ne pas sombrer dans l'ennui, comme, dirait Pascal, un roi sans divertissement.
Dans la troisième partie, comment faites-vous, comment construisez-vous, David Le Breton, une issue à l'impasse de l'instant présent, tel que vous la décrivez ?
Alors là, le virage pourrait être pris, une fois de plus, par la référence que l'on utilise à la fin de la deuxième partie, la référence à Kant, parce que Kant a quand même la gentillesse, une fois qu'il a sapé notre idée qu'on pourrait se proposer d'être heureux, de nous suggérer une autre piste que le bonheur. Donc il ne nous laisse pas complètement dépourvus, et il nous dit que finalement, au lieu du bonheur, peut-être que notre règle de vie serait satisfaisante si elle se proposait comme but le souverain bien, qui n'est pas tout à fait le bonheur.
C'est le même homme quand même qui dit que ne pas être heureux est une grande tentation d'enfreindre ses devoirs et que si le bonheur n'est pas une fin en soi, il est quand même le moyen d'une fin qui certes lui est supérieure, mais qu'il faudrait accomplir.
Oui, parce qu'on a cette idée chez Kant que le bonheur est à la fois quelque chose d'un peu louche et en même temps qu'il faut bien reconnaître qu'à choisir, ce bonheur est préférable. Et que ça,
dans la mesure où il permet de faire son devoir, dont il permet la dignité justement.
Oui, alors... Plus exactement, Kant ne va pas dire que c'est parce qu'on est heureux que l'on se donne les moyens de faire son devoir.
Il dit que ne pas l'être est une tentation d'enfreindre ses devoirs.
Voilà, donc il conseillera toujours de chercher à être heureux, mais de ne pas être dupe de ce bonheur et de savoir que ça n'est pas le principal ingrédient d'une belle vie, d'une vie dont on pourrait se dire qu'elle est réussie, parce qu'elle a atteint ce fameux souverain bien. Donc ça en fait partie, mais ça c'est relégué à une place plutôt secondaire, derrière en fait l'impératif que Kant fait à son lecteur d'avoir d'abord travaillé à vivre de façon morale. Ensuite, si c'est possible, le bonheur suivra, et c'est bien qu'il suive, mais ça n'est pas l'essentiel.
Alors, dans quelle mesure faut-il opposer vivre l'instant présent et vivre de façon morale, David Le Breton ? Puisque finalement, c'est ça l'objet de la troisième partie.
Oui, la question, c'est est-ce qu'on est nécessairement immoral dès lors qu'on se propose de vivre l'instant présent ? Et pour instruire un petit peu ce dossier, on peut se tourner cette fois-ci vers des références littéraires. Puis, on a mis des définitions dans notre dissertation, on a mis des références philosophiques. Après tout, rien n'empêche un bon candidat avec un bon bagage culturel de se dire que la littérature serait tout à fait pertinente ici. Et je pense notamment à toute la poésie qui est l'héritière du Carpe Diem d'Horace et qui révèle la dimension un peu plus sulfureuse qui est dans le Carpe Diem et à laquelle on échappait peut-être un peu chez Horace. Alors, le premier d'entre eux, peut-être la variation la plus célèbre sur ce Carpe Diem, c'est la variation de Ronsard dans le poème « Mignonne, allons voir si la rose ». Situation apparemment banale, la plupart des gens, je pense, ont en tête ce fameux poème. on retrouve du Horace, et puis tout à coup, il y a quand même quelque chose qui détonne un peu dans le paysage. C'est pas un peu louche, en fait, ce poète qui va voir une jeune fille et qui lui dit « Tiens, allons jeter un œil au fond du jardin à cette rose que j'ai vue fleurir ce matin. Je voudrais savoir si ce soir, elle est encore fleurie. » Ça ressemble franchement à un prétexte fallacieux et à un moyen d'emmener les jeunes filles à l'écart pour chercher à les séduire. C'est là qu'on voit la dimension potentiellement immorale du carpe diem qui apparaît. Ça en fait une tactique de séduction, une invitation à profiter de l'instant présent pour miser sur l'insouciance des jeunes filles.
C'est-à-dire faire tourner l'instant présent, profiter de l'instant présent serait une façon de faire tourner l'instant présent au profit de celui qui prétend en profiter.
Oui, parce que dans son poème, Ronsard a l'air de donner un bon conseil à la jeune fille, à cette mignonne à laquelle il s'adresse. Mais on pourrait très facilement le soupçonner, en fait, de ne viser que son propre plaisir, son plaisir sexuel qui plus est, et de ne pas trop s'inquiéter, à la manière d'un Don Juan, par exemple, de la situation dans laquelle il va laisser la pauvre jeune fille qui aura succombé à ses avances et qui pourrait risquer le déshonneur, la solitude, l'amertume d'une promesse qui n'a pas été tenue.
Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Dans le même temps, David Le Breton, il a raison.
Oui, il a raison, mais la question c'est de savoir avec quelle intention il dit ça. Alors, on a encore une version assez gentille de cette dimension de plus en plus immorale du carpe diem. Mais quand on regarde un petit peu dans le reste de cette tradition poétique du carpe diem, on en voit des versions beaucoup plus agressives et donc qui décrédibilisent l'idée que vivre l'instant présent, ce serait une bonne règle de vie pour celui qui s'y adonne. C'est surtout bénéfique pour celui qui est à côté de la jeune fille ayant décidé de le faire.
Alors, si l'on va au-delà de cela, donc on a bien compris que la critique que vous proposez de vivre l'instant présent vient du fait que c'est souvent l'invocation, ou que si on repère l'intention qui est à l'œuvre derrière cela, sous la noblesse du conseil se trouveraient des intentions qui, elles, le sont moins. Est-ce que on est là dans le calcul des conséquences ou bien dans un argument moral, David Le Breton? Et si on est dans un argument moral, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inconditionné au fond dans cet argument moral qui consisterait à dire le type a une idée derrière la tête et au fond ça n'est pas bien d'avoir une idée derrière la tête quand on dit autre chose. Est-ce que cette la valeur inconditionnée de cet argument moral n'en fait pas un argument d'autorité?
Effectivement, on pourrait se dire, après tout, profiter de l'instant présent, profiter des plaisirs de la chair qu'une jeune fille peut s'offrir tant qu'elle est encore jeune, belle et fraîche. Où est le problème? En soi, ça n'est pas une si mauvaise chose que ça, il n'y a qu'une bonne morale un peu pudibonde qui pourrait y trouver à redire. Ce qui me gêne un peu plus, moi, là-dedans, c'est que y a une tentative quand même de manipulation qui se présente, qui avance masquée. C'est particulièrement net, je crois, chez le plus virulent, en un sens, de cette tradition, c'est particulièrement net chez Ovid, qui reprend ce conseil quelques années seulement après Horace du Carpe Diem, et puis qui à un moment se dit « Oh là, je suis peut-être allé un petit peu trop loin ». Et on trouve dans l'art d'aimer littéralement cette espèce d'atténuation du conseil que donne Ovid en disant « Attention, ma voix ne vous conseille pas de vous prostituer ». Ou là, il sent qu'il est allé un petit peu loin et que pour son propre plaisir, il a peut-être proposé quelque chose qui serait mal interprété, puis qui surtout révélerait tout ce qu'il y a de fourbe dans ce qu'il dit.
Donc comment concluriez-vous, David Le Breton, puisqu'on s'approche du terme de cette discussion, comment est-ce que vous concluriez une telle démarche? De quelle manière?
Je pense d'abord que pour la fin de ce grand 3, il faudrait bien insister sur le fait que cette tradition poétique, c'est une lecture possible du carpe diem, mais pas la seule, et qu'elle est manifestement un petit peu à côté de ce que voulait dire Horace et de l'épicurisme qui imprègne le carpe diem d'Horace et l'idée de vivre l'instant présent. Et je crois qu'on pourrait malgré tout terminer sur une sorte de réhabilitation de ce carpe diem pour montrer, en fin de compte, que le carpe diem bien compris, un carpe diem qui est plus un hédonisme intelligent, raffiné.
C'est-à-dire qu'il ne reposerait pas seulement sur la satisfaction, au fond.
Voilà, un carpe diem qui reposerait plus sur une forme de contemplation, de jouissance instantanée du présent.
L'être plus que l'avoir.
Voilà. Ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, ce carpe diem, il n'invite pas tellement à jouir à chaque instant de choses et d'autres, de filles, de vin. Il n'invite pas à vivre à chaque instant. C'est un carpe diem plus raffiné que ça qui invite à jouir de chaque instant. À trouver dans chaque instant, quelle que soit la chose qui occupe cet instant, qui l'habite, à réussir à y trouver un motif de satisfaction. Et ça, je pense que ça ne peut plus être taxé d'immoralisme comme on pouvait en faire le reproche pour les versions poétiques de Ronsard ou d'Ovide.
La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires, qui éclatent et rebondissent autour de moi. Éperdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Il faudrait filmer Marine Boisté, Emidia, Portis Guérin dans la tête d'Odeline au rythme d'Edith Piaf, une chanson magnifique, évidemment, qui dit à la fois l'art de vivre l'instant présent, voilà un homme que la foule lui jette entre ses bras, et les regrets infinis qui peuvent s'en déduire. Merci David Le Breton d'avoir joué le jeu de la dissertation, d'avoir passé le bac pour nous, pour nos auditeurs et pour vos élèves.
Merci à vous.
C'était un plaisir de discuter avec vous. Je renvoie à notre site internet pour les références bibliographiques de votre discussion et de votre dissertation plus exactement, et également d'autres références bibliographiques, car après tout, on aurait pu traiter ce sujet différemment. C'est aussi la grandeur des sujets de dissertation de terminale. Rappelons encore une fois aux élèves que les plans ne sont pas uniques ni univoques et qu'on pourrait en faire plusieurs. L'essentiel est d'être cohérent.
Dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
C'est l'heure de retrouver le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Aujourd'hui, comme tous les jours, le journal s'inscrit dans la continuité de cette semaine spéciale Bac Philo, puisque je recevrai tous les jours de cette semaine des auteurs d'essais de philosophie qui viennent de paraître et qui sont accessibles et utiles à tous ceux qui passent le bac cette année. Aujourd'hui, Raphaël, vous avez parlé du présent, il a été beaucoup question du temps. Eh bien, nous allons rester dans le même registre avec un livre sur le jeune Albert Einstein et ses illuminations, vous allez voir. Bonjour Frédéric Morlot.
Bonjour Adèle.
Vous êtes le repère du dernier venu de la famille des petits Platons, ces livres qui donnent à découvrir des philosophes sous la forme d'une petite histoire illustrée qui s'adresse aux plus jeunes, mais qui sont un très bon moyen de se familiariser avec un auteur que l'on ne connaît pas, y compris pour les plus grands, sans passer par un manuel scolaire. Et dans le cas de votre livre, je dois dire que c'est très réussi, Frédéric Morlot.
Tout à fait, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de voir Albert Einstein dans les manuels de philosophie, et pour cause, il se définissait d'abord en tant que physicien. Et pourtant, si on creuse un peu son œuvre, ce qui demande un petit peu d'investissement scientifique, on se rend compte que finalement, ça converge pas mal avec certaines problématiques que les philosophes s'étaient déjà posées depuis longtemps. La perception de l'espace et du temps, le problème de la causalité, etc. Donc, comment, en fait, à partir de l'histoire d'un personnage, Albert Einstein en l'occurrence, physicien, on peut mettre en place des expériences pratiques dans un monde réel qui nous amène à des problèmes parfois un peu délirants, comme ce problème de causalité dans la physique quantique, ou comment savoir si des causes ont préludé un acte, etc. Donc ça nous semblait intéressant, à vrai dire, de partir d'une situation très concrète, avec une vraie trame narrative, pour un peu essayer de mieux faire passer la pilule, si je puis dire, enfin, d'intéresser en tout cas les élèves, plutôt que de partir d'un thème un peu abscon, un peu abstrait, du type « qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que l'espace ?» Donc voilà, c'est pas un manuel de mathématiques, c'est pas un manuel de physique théorique, c'est plutôt l'histoire simple et joyeuse d'un petit apprenti physicien à la fête de la bière de Munich, un peu avant 1900, qui va se trouver entraîné dans des aventures qui vont lui faire comprendre que le temps n'est peut-être pas aussi simple qu'on le perçoit.
Voilà, et vous dites-nous, puisque votre texte, comme tous les textes dans la collection Les Petits Platons, est illustré. Donc cette fois-ci, il est illustré par Anne-Margot Rammstein. Et donc ici, on voit qu'il y a tout un travail d'essayer d'exprimer ce que vous dites. Donc déjà, il y a l'idée de départ qui peut être assez aride, qui est la pensée même d'Einstein, que vous narrativisez pour la rendre accessible. Et cet effort de rendre accessible la pensée d'Einstein est redoublé par le dessin lui-même.
Tout à fait. Et puis là, le dessin était particulièrement important parce que pour ce genre de problème scientifiquement complexe, je crois particulièrement à la vertu de l'illustration. Un texte tout seul, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant pour comprendre, par exemple, que le temps se dilate quand on va vite ou ce genre de réalité un peu difficile à aborder, difficile à conceptualiser. Et donc, si on peut avoir une illustration bien précise à côté qui nous aide à approcher le concept, ça aide grandement. Et en plus, si cette illustration peut être jolie, alors on est comblé.
Voilà, et donc là, l'idée de départ, c'est donc vous présenter, on est dans une fête de la bière, effectivement, à Munich. Il y a une grande, grande tente qui accueille beaucoup, beaucoup de buveurs de bière. Et à un moment, le jeune Albert décide d'illuminer la tente à l'aide d'une guirlande. On lui demande d'illuminer la tente à 10 heures précises. Or, il se rend compte que la guirlande s'allume à 10 heures et une seconde, ce qui lui attire la foudre de son, c'est pas de son supérieur, mais celui qui lui a demandé d'allumer la guirlande. Et donc il se rend compte qu'en fait nous n'avons pas la maîtrise du temps exact. Il ne comprend pas, et ça va être l'enjeu de toutes les péripéties de ce livre, comment ça se fait qu'il y a une seconde de décalage entre le moment où il a allumé la guirlande et le moment où elle s'est allumée.
Tout à fait. Enfin, plus précisément, donc, de son point de vue, la lumière s'allume bien à l'heure dite, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que son patron se trouvait à l'autre bout de la tente et que cette tente a des proportions proprement délirantes. Elle fait 300 000 km de long. On est dans la tradition du conte un peu fantastique et un peu même grotesque par moments, mais ce n'est pas grave, c'était justement pour illustrer notre propos. Et son patron, qui est à l'autre bout de la tente, à 300 000 km de là, donc, voit arriver la lumière une seconde plus tard. Alors ça, encore, Einstein arrive à le comprendre, parce qu'à son époque, c'est en 1896, on savait déjà que la lumière n'avait pas une vitesse infinie. Donc il peut comprendre, à la limite, qu'elle mette une seconde à franchir la totalité de l'attente. Le problème, c'est quand il essaye de l'accélérer, puisqu'il se dit « il va falloir que je sacrifie aux consignes de mon patron, et donc il va falloir absolument que la lumière arrive au même moment au bout de l'attente. »
Et là, c'est là où il fait appel à son ami le lanceur de nains. Il lui demande de lancer des knödels, donc qui sont ces petites boules de pommes de terre allemandes. Il se rend compte qu'on peut accélérer la trajectoire et la vitesse du lancer de knödels, mais non pas de la lumière.
Tout à fait. Alors, il se rend compte donc qu'en lançant un knödel plus vite, il va plus vite. Ça paraît un truisme, ce que je dis, mais le problème, c'est qu'avec la lumière, ça devient faux. Aux grandes vitesses, vous avez beau donner toute l'énergie supplémentaire que vous voulez, vous ne pourrez pas faire aller un grain de lumière à une vitesse supérieure à la lumière, à la vitesse qu'on apprend à l'école, à peu de choses près, 300 000 km/s. Et ce qui est intéressant, en fait, et c'est là que la science a vraiment fait son entrée par la grande porte, c'est que le knödel, à la limite, va se comporter comme la lumière, à haute vitesse. C'est-à-dire que le lanceur de nains est quelqu'un de très fort, donc il va lancer les knödels à une vitesse faramineuse, il va les lancer à une vitesse proche de la lumière, et là, on va voir apparaître le même phénomène. C'est là qu'Einstein va se dire, bon sang, mais peut-être est-ce que ça n'est pas quelque chose de spécifique à la lumière, mais à tous les corps. Et là, exit Newton, exit Galilée, exit toute la physique classique que l'on connaissait jusqu'en 1905, pour la petite histoire, puisque son article fondateur de la relativité date de cette année-là.
Et donc c'est là qu'on voit que le détour par le knödel et le lanceur de nains et le buveur de bière permet en fait d'expliquer la découverte de la théorie de la relativité pour Einstein.
Exactement.
Voilà, et donc je laisse les auditeurs découvrir la suite du livre, justement, c'est passionnant, ça devient complètement mirobolant, on voyage dans le temps et dans différentes dimensions. Donc votre livre s'appelle « Les illuminations d'Albert Einstein », on trouve ça donc dans la collection Petit Platon, et c'est absolument accessible à tous les étudiants, y compris ceux qui passent le bac cette année, donc je vous en recommande chaudement la lecture. Merci Frédéric Mordot d'en avoir parlé aujourd'hui.
Merci Adèle.
Merci Adèle, merci à tous. C'est la fin des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour aujourd'hui, car on se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h, pour la suite de cette semaine sur le Bac Philo. Une semaine que vous pouvez retrouver également sur Internet. Hein. Vous pouvez télécharger toutes les émissions de la semaine à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance et retrouver aussi une bibliographie spéciale Bac Philo à laquelle on a ajouté le plan du candidat. Le plan du candidat du jour, ainsi que les références bibliographiques de son propre travail. Tout cela est fort utile subtile. À demain donc, demain on recevra Anne-Sophie Rémy, qui enseigne la philosophie au lycée de Neuchâteau dans les Vosges et qui planchera sur la question de savoir s'il faut être cultivé pour comprendre une œuvre d'art. 10h59 sur France Culture, dans un instant Culture Monde, Florian Delorme.